invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h-21h, pour deux pistes et sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour la dernière émission de l'année civile, j'ai le plaisir de recevoir Martin Elliott Carrière, respectivement bassiste et guitariste de You Said Strange. Le groupe formé il y a 7 ans à Giverny vient de sortir son premier album intitulé Salvation Prayer. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de l'émission Tour de Piste.
Merci à toi.
Alors avant d'évoquer la sortie du disque, on va revenir brièvement sur votre histoire. You Said Strange se forme en 2011 à Giverny. Comment vous est venue l'idée de monter un groupe ?
Avec le batteur, on a monté le truc. On est dans une petite ville, pas beaucoup d'habitants. On s'est rencontrés sur la première édition du festival Rock in the Barn. Et on se connaissait pas, mais on s'était déjà croisés. Et puis on s'est dit, t'as envie de faire de la zik, j'ai envie de faire de la zik. Et on teste un truc le dimanche prochain chez toi. Et puis voilà, tout simplement.
C'est une bande de potes, quoi.
Voilà, une histoire de potes.
Ah, ok. Donc votre groupe, il est inscrit dans ce qu'on appelle, parce que c'est assez barbare, le rock'n'roll, les étiquettes qui vont avec. Dans le rock psychédélique, les influences au départ à la formation du groupe, c'était quoi ?
C'était très varié en fait, parce qu'on était 4-5 à avoir beaucoup d'influences différentes, et puis surtout à cet âge-là, on est encore vraiment. Enfin, moi j'avais 13 ans, ils avaient 14-15 ans, enfin on était vraiment en recherche. Donc on aimait tout ce qui était le rock anglais de l'époque. On était très Baby Shambles, Libertines, Arctic Monkeys, tout ça quoi. Ce qui n'est plus tout le cas aujourd'hui. Ouais. Dans les influences, en tout cas.
J'en profite de vous avoir tous les deux, parce que vous êtes une fratrie. On écoutait quoi chez les Carrières à la maison ? Mon papa, il était déjà bien baigné, Eric, dans le milieu musical.
Ah, on écoutait plutôt du Tetraed, en fait. On écoutait du Tetraed, notre padre, il a monté le festival de Giverny en 98, donc il est plutôt esthétique chanson française, et auteur, compositeur, interprète, et on a eu du Tetraed, Dominica, La Tordue. Du Yann Tiersen, beaucoup de Yann Tiersen, du Mano Solo à fond aussi.
Que des artistes alternatifs.
Ouais.
Vous avez gardé ça.
Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas du tout. Du coup, c'est pas devenu. C'est quelque chose que. Enfin, on a vraiment baigné là-dedans, et c'est quelque chose qu'on a en nous. Hein, vraiment, les Tetraed, pour nous, il y a rien de mieux en live. Je défie quelqu'un d'aller voir les Tetraed et de me dire non, il y a mieux en live. Et donc pour nous, c'est une grande influence, je pense indirecte. Christian, le chanteur des Tetraed, c'est un modèle pour nous, dans plein de choses.
C'est un vrai punk et un vrai poète pour le coup.
Ouais, carrément.
Donc vous êtes quatre, You Said Strange, hein, aujourd'hui, hein, avec la sortie de cet album. Comment vous faites pour concilier les goûts entre musiciens ? Vous êtes tous une lignée vraiment rock psyché aujourd'hui, ou faut faire des concessions avec les désirs de chacun ?
Non, je crois qu'on est tous plus ou moins dans le même, on est carrément dans la même ligne. Là, on est tous, on a tous des trucs différents qui sont très personnels. Après, sinon, on est tous dans la même ligne. On en est venu à ça petit à petit, et c'est ce style-là en tout cas qui nous a rassemblés, on va dire.
Donc rock psyché. Drone, shoegaze,
ça va jusqu'à la cold wave, new wave, voilà. Même si ça, peut-être que ça se ressent pas dans la musique directement, mais ça fait partie aussi de tout ce qu'on écoute.
Ça se ressent dans une écoute attentive, ouais. C'est assez dense au niveau du son, puis ça fait appel à pas mal de références. Même si c'est un style un peu garage, le rock psyché, apparemment linéaire, on sent quand même qu'il y a une variété sur l'album. Donc vous puisez, enfin on parle de rock psyché, surtout de néo-psychédélia, c'est-à-dire une vague psyché des années 90, ouverte par Warlocks, d'Andy Warhols, on en parlera tout à l'heure, les Brian Johnston Massacre, parmi les représentants de la nouvelle scène rock actuelle, est-ce qu'il y en a qui vous inspire particulièrement, ou qui ont inspiré les couleurs de l'album ?
Actuel ?
Actuel, bon, ouais, vraiment les groupes qui sont formés il y a quelques années comme vous.
C'est vrai que quelques années comme nous. Non, parce que j'allais citer les BRMC, mais c'est un vieux groupe.
Ouais, c'est ça. Ouais, j'allais parler de Ride, mais non.
Non, c'est même plus vieux que les BJM Ride.
Bah oui, bien sûr, mais de maintenant.
Qu'est-ce qui nous inspire de maintenant ? Il y a Parquet Courts ?
Ouais, qu'on n'est pas trop dans le psyché, mais oui. Parquet Courts.
Ça fait partie des choses qu'on écoute aussi qui.
Ouais, c'est ça. Bah, il y a Black Angels.
Qui est aussi un vieux groupe.
Mais un peu moins.
Un peu moins.
Beaucoup moins, ouais. Ouais. Après, on écoutait beaucoup Cosmonauts. Il y a eu le retour de Slowdive aussi, qui ont sorti un super dernier album. Et voilà, c'est...
Après, ici, dans la scène, il y a The Underground Youth, qu'on écoute. Mm-hmm. Qui, eux, sont pas un vieux groupe, qui sont de chez Fuzz Club, le label dans lequel on est. Ouais. The Underground Youth, il y a... En français, qui nous ont inspiré aussi. Il y a eu des titres de Marietta qui a des super sons.
Et puis un groupe avec lequel toi tu as des connexions avec le Festival Rock in the Barn.
Oui, ouais, carrément. Carrément.
Et Dead Horse One.
Dead Horse One, bien sûr. Qui sont nos copains de Valence.
Ils nous ont quand même bien. En tout cas, à force de se voir et tout ça, je pense qu'il y a une influence qui s'est créée quand même. Nous, on aime beaucoup leur son et c'est vrai que ils m'ont pas mal inspiré en matière de son. Voilà, Dead Horse One.
Et puis il y a les Black Market Karma, évidemment.
Vous avez une histoire d'ailleurs.
Bah oui, avec Stanley avec qui on a enregistré notre premier EP fin 2014. Et c'est sorti en mars 2015, donc avec Stanley Belton, le leader des Black Market Karma. C'était à Londres qu'on est parti enregistrer ça. Un 4 titres.
Est-ce qu'on peut dire qu'il a donné une sonorité un peu anglaise au son du groupe ou pas?
Anglaise, je sais pas. Il a donné une patte à lui. Ouais. il aurait pu être australien ou hollandais. Il a donné sa patte Black Market Karma, qu'on aime beaucoup et qui fait partie, oui, de nos influences, qu'on largement contribué. Aux ressources, en tout cas l'inspiration du groupe. Et donc, en 2014, on l'avait demandé si ça le branchait de nous enregistrer là-bas chez lui, dans son garage, là où il fait tous ses albums. Et puis, il a dit OK, carrément, allons-y. Et puis, on est parti là-bas. C'était une chouette aventure. Et ça a donné, tout de suite un son qui nous plaisait. Et on lui a dit oh, écoute, on te fait confiance. Vas-y.
On va parler de l'importance de la production pour un groupe tout à l'heure. On va écouter Brain, extrait justement de votre album Salvation Prayer, puis on se retrouve dans quelques minutes.
We'll be right back.
Et alors ça, c'est un extrait du deuxième EP, parce qu'avant de sortir cet album, il y a eu deux EP qui ont dû sans doute participer à la phase de maturation pour le disque.
Mais ça, c'était la version de l'album, par contre.
Ça, c'était la version de l'album, qui est légèrement différente de celle de l'EP.
Au niveau prod, au niveau du son, c'est pas du tout la même chose.
Ça représente quoi, le cap d'un long format, d'un album pour un jeune groupe comme vous? C'est vraiment un palier de franchi.
Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Le premier, c'est toujours quelque chose, forcément. Et puis, il faut attendre de le sortir au bon moment. On ne peut pas le sortir n'importe comment. Il nous fallait une base solide parce qu'on a décidé de tout faire un peu nous-mêmes. On a fait un financement participatif de 12 000 euros. Ça nous a quand même bien aidé. Mais il n'y avait pas de label qui a mis de l'argent dans un enregistrement ou dans une production ou quoi que ce soit. On a placé l'argent comme on le voulait. Et donc il faut le sortir. Il faut pas galvauder le truc, quoi. Et puis c'est dur quand t'es seul. On est nos propres managers.
D'une part, il y a un esprit do it yourself qui est cher au rock. Je trouve que c'est vachement important de conserver ça. Et puis vous avez pris vraiment le temps de le faire, de le soigner, de pas le faire dans la précipitation, malgré il y a de la pression forcément.
Il y a de la pression, puis il y a toujours tous les gens autour. Alors ça sort quand, c'est machin. C'est long, on a participé. Au début, on voulait sortir avec notre propre label, on voulait monter notre propre label et se dire qu'en fait avec un attaché de presse qu'on aurait que nous on paierait en tant que label, ça marcherait. Mais on s'est dit qu'il fallait vraiment prendre plus le temps et on avait déjà fait tout nous-mêmes sur l'album et de faire un label en plus, on dirait laisser des plumes, je pense, de par l'administration, de par plein de choses, et qu'il faut qu'on se concentre plus sur la zik, quoi. Donc déjà on a fait déjà tellement de choses autour de la prod, autour de la production du disque, c'est-à-dire tous les à côté, on les a fait. Maintenant on a une équipe qui nous aide, on a un attaché de presse, on a un éditeur qui est super bon. Et maintenant, on aimerait bien se focaliser que sur la zik.
Sur l'aspect créatif, quoi.
Mais en tout cas, on est très content d'avoir fait tout ça et d'avoir pu proposer après l'album une fois prêt, d'avoir pu le proposer à First Club, ce label à Londres qu'on aime beaucoup. Et du coup, qu'ils acceptent de faire le pressage vinyle, le pressage CD. Donc ça, c'est plutôt chouette, quoi.
Alors vous avez intégré, on va parler des rencontres et des aides, des belles rencontres que vous avez faites, et puis des dispositifs ou des artistes qui vous ont aidé. Vous avez intégré Booster en 2014. Alors Booster, c'est le dispositif d'accompagnement des jeunes artistes en voie de professionnalisation géré par le 106. Une des étapes sans doute qui vous a fait franchir un palier. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments clés dans l'histoire du groupe?
Booster, oui, ça a aidé beaucoup parce que ça nous a... déjà, ça a permis d'acheter du matos, de financer les deux premiers EP. Comme on parlait d'une base solide, avant de sortir un album, il nous fallait deux EP au moins pour montrer ce qu'on pouvait faire. Et donc, ça nous a permis d'enregistrer ces deux EP, d'en faire de la promo, de les presser. Et puis, ça nous a permis d'avoir des super rencontres. En fait, on a été accompagné par une salle du département de l'Eure, donc la salle du Silo à Verneuil-sur-Avre, avec à l'époque Alban Legrand, qui maintenant est programmateur au Cube à Évreux. Et il était donc programmateur du Silo à l'époque. Et c'était chouette parce que c'est à 1h10 de chez nous, en fait, Verneuil-sur-Avre. C'est vraiment à l'autre bout du département. Et on a fait des résidences de 3-4 jours. Et en fait, on pionçait chez lui parce qu'on ne faisait pas l'aller-retour. Donc, il y a plein de choses, plein d'histoires qui sont créées avec Alban. Maintenant, c'est vraiment un ami très proche.
Ouais, il y a un petit tissu en Normandie et puis même dans l'Eure en particulier. Je ne sais pas s'il y a une gare Seine-Maritime Eure.
On est vite.
Ouais. Puis il y a des bons confs à la scène locale en Normandie, elle est vraiment en pleine expansion, moi je trouve.
Ouais, carrément. Et puis, de 7 avec les Verlaines qui commencent à bien bouger aussi, quoi.
On les a eu il y a pas longtemps, les Verlaines, justement, à l'émission. Donc, tu organises le festival Rock in the Barn qui tiendra sa 9e édition à la ferme de Bionval-en-Vexin, sur Epte, en septembre. Faire partie d'un groupe et organiser un festival, ça apporte quoi au You Said Strange? Parce qu'on parlait des rencontres, justement, les connexions entre groupes, Elliot. Parce qu'on parlait justement des Metro Verlaine qu'on rencontrait le producteur de leur premier album qui est sorti en mars, qu'ils ont rencontré à Rock in the Barn, le guitariste de Crocodiles, Charles.
C'est vrai que chaque année c'est quand même une grosse fête où on se retrouve avec tous les acteurs de la scène locale, Et que ce soit les programmateurs, les groupes, c'est toute une grosse bande de potes et à chaque fois on se rencontre, c'est très intéressant. Et nous c'est pareil en fait, on a rencontré les Black Market Karma à Rock in the Barn et on les a fait venir jouer, et puis en fait le courant est passé, on est resté en contact et puis on en est venu à produire à enregistrer notre premier EP chez eux à Londres. Et c'est vrai qu'il y a comment ça apporte énormément. C'est quand même une chouette carte de visite aussi. Voilà, quand on est sur la route, on a été quand même assez vite identifié comme le groupe qui fait Rock in the Barn aussi. Et c'est assez marrant en tout cas. Je trouve que de tout ce qui se passe avec tous les groupes à Rock in the Barn, c'est assez intéressant.
Oui, c'est une bonne carte de visite. C'est ça, c'est nous la manière dont on a accueilli les groupes. Quelque part, ils nous le rendent ailleurs. C'est-à-dire qu'on a accueilli les Guadalteras chez nous. Donc c'est les Rennais qui ont l'assaut From Town to Town. Ils nous accueillent. Ça fait trois fois qu'on joue chez eux à Rennes. Les Black Market, pareil. Je pense que la manière dont ils ont été accueillis, c'est-à-dire sur scène, mais aussi dans les loges, avec la bouffe. C'est notre padre qui fait à bouffer.
On mange très bien.
Le catering, le vin, enfin. L'éloge, enfin l'esprit du lieu, c'est super important en fait pour un groupe d'être bien accueilli. Et on s'en rend compte nous sur les tournées qu'en tout cas à Rock in the Barn on accueille vraiment bien les groupes et quelque part ils nous le rendent aussi sur un accueil ailleurs et ça crée plein de connexions et c'est très chouette. C'est plutôt encourageant en fait pour tout le monde parce que tout le monde a envie d'accueillir le mieux possible et puis d'offrir un super spot à des amis à 22h sur dans la grange, une grange bondée devant 200-300 personnes alors que la veille ils auraient pu jouer dans un bar sur une date devant 20 ou 25 personnes pour des groupes inconnus parfois comme un groupe comme Rust qu'on a rencontré en Allemagne, un groupe polonais en fait qui s'appelle Rust. On les a fait jouer en 2015 à Rock in the Barn, et c'était leur premier concert en France, je crois. Et ils ont joué dans la grange. C'était une tuerie, quoi. C'était incroyable. Enfin, à chaque fois, on en recose, quoi, quand on se revoit. Ils nous disent, mais ce concert, c'était fou, quoi.
Et puis c'est vraiment, ça fait du bien des festivals comme ça. Il y a plein de festivals qui sont rachetés par des grosses boîtes de prod, où le format devient vraiment pop, très prédigéré. Ça fait du bien qu'il y ait des festivals vraiment. Vraiment à contre-courant de cette grosse machine industrielle.
Bah oui, bah on le voit comme feu le rock dans tous ses états quoi. Et on essaie d'être un peu dans cette lignée un peu artistique, un peu enfin underground, je dirais pas ça, mais où on essaie ouais d'être un peu à contre-courant. Ouais, c'est important de pouvoir proposer des choses qui passent pas partout et que les gens et arriver surtout à motiver les gens à venir quoi.
Et alors dans les rencontres, il y a une rencontre évidemment qui a été très importante dans la réalisation de l'album, c'est celle de Peter Holmström, donc guitariste de Portland, c'est lui qui produit l'album. Ça s'est passé comment avec Peter? Vous l'avez rencontré comment? Et puis est-ce que c'est lui qui vous a proposé de produire le disque ou vous avez été vers lui?
En fait, c'était il y a 3 ans, non? On avait voulu faire les Inouïs du Printemps de Bourges. C'est un espèce de tremplin pour aller jouer au Printemps de Bourges. Ils font ça dans chaque région. Et là, ça se passait au Tetris, au Havre. Et on avait été faire le truc, on n'avait pas été pris, mais Mathieu Chevalier, qui est du Tetris, nous avait appelé pour nous dire ben voilà, vous n'avez pas été pris, mais moi, je vous garde sous le coude au cas où il y a quelque chose. Et quelques temps après, il nous a rappelé en nous disant, est-ce que ça vous dirait de venir faire la première partie des Dandy Warhols? Ils ont plus leur première partie en fait pour la France. Et est-ce que vous voudriez venir faire la première partie au Havre en tant que groupe normand? Et nous évidemment carrément quoi, évidemment. Et en fait on n'a pas eu de nouvelles depuis, enfin il n'y avait pas eu de nouvelles. Et puis ils nous ont rappelé un ou deux mois après. On était en concert à Paris à la Mécanique Ondulatoire et ils nous ont rappelé juste après le concert pour nous dire ils ont écouté le projet et ils veulent vous prendre sur les 5 dates en France en fait, donc pas seulement sur la date au Havre du coup. Et on est parti donc en tournée avec les Dandys et on a rencontré donc Peter qui est le gratteux sur la tournée. Et petit à petit les liens se sont resserrés en tout cas et puis on s'est revus l'année d'après à Lille à l'Aéronef où ils jouaient Et on lui a demandé si ça lui, si ça lui dirait de produire notre premier album. Et il a tout de suite été chaud, quoi. Il parlait, lui, de venir en France pour venir enregistrer et tout ça. Mais on s'est dit que, bon, ça nous coûterait sûrement beaucoup plus cher, en fait, de le faire venir ici pour louer un studio équivalent du leur là-bas. Et puis c'était pour l'aventure et tout ça. Du coup, on s'est dit, bah non, nous on viendra chez toi pour que tu sois, voilà, pour qu'il soit dans son jus, dans son lieu, à la maison où il maîtrise tout. Et voilà comment ça s'est passé, la rencontre avec Peter.
Ah, c'était sa première expérience de production, je crois.
Ouais, en fait, c'était le premier groupe qui produisait en dehors des Dandy Warhols ou de son projet solo. Peter à International Airport, et du coup c'était la première fois, donc première expérience pour tout le monde.
Ma première expérience, en tout cas en tant que producteur, parce que lui il faisait les Dandy.
Justement, pour un autre groupe, en tout cas.
Voilà, en tant que producteur pour un autre groupe, c'était la première fois. Ouais.
Et qu'est-ce qui vous a apporté au niveau du son, etc., les conseils, les échanges, ça s'est passé comment pendant l'enregistrement?
Bah, c'était hyper intéressant parce qu'il avait, il a tellement d'expérience depuis tant d'années qu'il enregistre. Il avait tellement de magouilles dans les amplis, dans les effets, dans plein de trucs. Il avait plein d'idées tout le temps. Il savait toujours exactement ce qu'il voulait. Et c'était super intéressant parce que des fois, on lui disait, voilà, nous on aimerait ci, ça, que ça sonne comme ça, et à chaque fois il rebondissait toujours, bah alors on va faire comme ça, comme ci et tout. C'était vraiment assez incroyable. En tout cas, lui, il était dans son milieu, donc il maîtrisait tout, et il avait une idée vraiment assez précise du projet, en fait, de l'album. Il avait déjà écouté toutes les maquettes avant, et il s'est vraiment impliqué, quoi. Il a même joué de la gratte, il a même enregistré des grattes sur certains morceaux, voilà, c'était vraiment, vraiment intéressant, en tout cas.
Et ben on va revenir sur l'album, on va écouter un autre extrait, c'est Allo, You Said Strange, dans l'émission Tour de Piste.
We'll be right back.
Voilà un extrait de l'album qui est sorti au mois de juin des You Said Strange. Justement, l'émission est complètement consacrée. On va revenir donc sur le processus de création de l'album. Qui écrit et compose ? Question que je me suis posée. J'avais pas la réponse.
Ah.
Au sein du groupe.
Un peu tout le monde. Parole, c'est Elliot et moi. Mais en général, l'un de nous arrive avec une idée et puis on la bosse en fait ensemble tous les quatre. On arrange. On se pose des questions ensemble, voilà, on est pas trop, on compose plutôt tous ensemble quoi. C'est plutôt l'idée.
Vous êtes un vrai groupe.
Ouais, carrément.
Et on va parler du choix du label aussi, donc ça sempiternelle question hein, pour un groupe. Ça s'est passé comment le choix du label londonien?
Bah, First Club, c'est un label qu'on lorgnait depuis longtemps et puis c'était un peu un petit fantasme quoi de pouvoir être dans le catalogue, enfin dans le l'équipe First Club. C'était en fait, on écoute pas mal de groupes qui en sortaient et puis c'est une super réputation à travers l'Europe et voire à travers le monde. C'est que de la niche, mais de la niche vraiment qualitative, et à chaque fois qu'on cite First Club, à chaque fois qu'on est dans un concert etc, on en discute, enfin tout le monde sait de quoi on parle en fait. Enfin quand on citait First Club sans parler enfin nous qu'on soit sur le label ou quoi que ce soit, mais quand on en discutait avec des potes ou avec des gens et tout, enfin tout le monde connaissait un peu First Club quoi. Et puis voilà, il y a des groupes, il y a plein de groupes américains qui en passant par l'Angleterre ou l'Europe passent chez eux pour faire des First Club sessions où en fait tu vas dans leur studio et on t'enregistre et on te filme et après on sort la session sur vinyle. Donc il y a eu Holy Wave qui a fait ça, il y a eu A Place to Bury Strangers, il y a eu The Black Angels, il y a eu un gros paquet de groupes qu'on aime qui sont passés par chez eux. Et puis après en Europe, il y a voilà tous ces groupes, il y a Radarmen from the Moon, il y a The Underground Youth et puis pas mal d'autres. Et du coup c'est quand même des groupes assez dark et on s'est dit que ça serait pas vraiment jouable qu'on y soit. Mais bon, en fait, Casper était venu nous voir, le leader du label, le patron du label était venu nous voir à Londres en 2016. Et il devait rester juste le début du set, juste pour voir un petit peu. Et en fait, il est resté tout le long. Et il a acheté un vinyle à la fin du premier EP. Et donc, il y avait un certain engouement. Je sais pas, on disait, putain, Casper a acheté un vinyle à la fin. On l'a même pas vu, il est passé comme ça, on l'a pas vu. Et en fait, il s'avère qu'on lui a envoyé l'album une fois qu'il était produit, et puis il a écouté en entier, et puis il nous a envoyé un mail quelques jours après, il a dit « Ok, moi je suis chaud pour le faire ».
Il y a une sortie donc en disque compact, évidemment, et puis en vinyle aussi, c'est le choix du label, ou vous en tant que groupe, vous pouvez demander une publication vinyle ?
Bah, il n'est même pas dispo en CD encore, on les reçoit la semaine prochaine, et oui, en distrib, il sera 13 juillet disponible en CD en distrib, et en vinyle aussi en distrib. Mais sinon, on voulait avant tout faire un vinyle. C'était l'idée de base.
C'est le support roi du rock'n'roll.
Voilà.
Et les points de vente alors pour l'album, Martin, dans le coin, enfin Évreux, sa région.
Là en ce moment, il est dispo. Il est pas dispo encore chez Gilbert Joseph puisque il va falloir qu'on lui en amène cette semaine. on va en amener. Et en fait, la distrib vraiment, ouais, c'est à partir du 13 juillet en fait avec différentes. Qui a eu un petit laps de temps avant de vraiment lancer le truc. Bon, mais ça va se concrétiser comme il faut. Ouais, c'est ça à partir de mi-juillet. Mais sinon, il est disponible sur Bandcamp et sur le site de First Club en fait, sur notre site web aussi sur le site de UC Strange. Et les gens peuvent acheter le vinyle en ligne. Et ouais. Après, il est chez Debris et d'Encre à Rouen. Aussi, et puis dans 2-3 points de vente à Giverny, notamment à la boulangerie de Giverny. Le coin du peintre.
Ça reste une entreprise locale. Hein.
Exactement, qu'on aime beaucoup. Ou alors la crypte, brancante et vendeur de vinyle.
Ou nos chambres d'hôtes.
Ou dans nos chambres d'hôtes aussi.
6 rue aux Juifs, 27620 Giverny.
Allez, on va écouter Get Out, extrait de Salvation Prayer.
Down when I try, fighting, wishing, yeah, show me.
Get Out, extrait de Salvation Prayer de You Said Strange dans le direct Tour de Piste. On va revenir un petit peu aussi sur la chance d'avoir la photographe de, on va parler un peu pochette, on a parlé vinyle, la photographe du groupe. L'idée de la pochette, du visuel de pochette, c'est arrivé comment?
Bah, c'était une idée de Martin en fait à la base.
Je te laisse te rapprocher. Je prends un peu au dépourvu, hein, j'avoue.
Oui. l'idée de la pochette d'album de cette photo, c'était une idée de Martin. Voilà.
Rien, on vous laissera la découvrir en visuel.
Mais c'est toi qui l'as prise. Moi, j'étais pas là d'ailleurs quand ça a été fait.
Et le nom du graphiste de la pochette, c'est...
C'est Inaniel Swims. C'est lui qui a fait tous nos visuels depuis un ou deux ans. Il a fait notamment deux super affiches de tournée. Quand on est parti en Italie, il en a fait une avec un héron cendré sortant d'un marécage, et puis avec du coup toutes les dates qui s'affichaient un peu de manière abstraite. Et la deuxième était celle de la deuxième tournée là qu'on a fait cet hiver, et où ça c'est allé en format scope, et avec une espèce d'anguille qui traverse l'océan comme ça avec des bateaux pirates. Elle est très chouette.
Et puis ça collassait avec la musique des You Said.
Ouais, carrément.
On va parler un petit peu de Rock in the Barn. J'en profite quand même, Martin, de t'avoir, même si l'émission était, enfin, est censée être quasi exclusivement consacrée au You Said Strange. Le festival a de nouveaux lieux, c'est la 9e édition. Est-ce que tu pourrais nous toucher quelques mots sur la programmation et puis la date exacte du festival?
Bah, la date, ce sera le 29 septembre. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on a lancé la programmation début juin, mais je ne me suis pas du tout occupé du truc, en fait, depuis. Parce qu'on est à fond dans le groupe et dans la sortie de l'album. Là, on va rattaquer sérieusement. Ouais, on a les affiches qui arrivent, on a les flyers, les programmes, tout ça. Et puis l'orga sur place, qu'on est dans un autre lieu, puisque depuis l'année dernière, on était à la ferme de Bionval à Écho Vexin-sur-Epte. Et puis on a, ce sera sur un soir. On va pas se relancer dans deux soirs parce que la dernière fois c'était en 2016 et que ça avait été un petit peu casse-gueule. On est encore un peu fragile parce qu'on a changé de lieu. Les gens, ça change leurs habitudes. Même si c'est à 10 minutes de Vernon, ça reste à 10 minutes de Vernon. Les gens ont besoin de s'habituer au lieu. Donc on fait un soir, on essaie d'atteindre 800 personnes, entre 800 et 1000 personnes, ce serait bien sur cette édition-là. Voilà, avec The KVB en tête d'affiche, les Anglais, que moi j'aime beaucoup, que j'écoute depuis un moment. Et puis Holy Wave, les gars de Austin, et qui font une tournée dans toute l'Europe, qui passent notamment par le Lévitation, et entre autres. Et ensuite, on a tout tard un groupe syrien et pas mal d'autres choses, zombie, notamment aussi du label Versatile qu'on aime beaucoup, avec deux batteurs et Étienne Jomet derrière au platine et au clavier.
Évidemment, la famille Carrière sera partie prenante. Je pense qu'Eliott, toi aussi, tu vas remonter les manches pour Rock in the Barn.
Ah oui, moi je suis toujours là, je suis derrière, je fais les chiottes, les tranchées et tout, ouais, on est là, il y aura tout le monde.
On se repasse un extrait, c'est Powerhouse, un extrait de votre dernier album. We'll be right back. Live the Lord de You Said Strange.
Non, Live the Lord, sera après.
Ce sera après. C'est la dernière de l'année, hein, c'est l'été. Ça, c'est contract. On va revenir sur les textes. Tu parlais justement en début d'émission que les Têtes t'avaient marqué. S'orienter, c'est vraiment de la chanson à texte. Les textes des You Said Strange, ils tournent autour de quel thème?
Non, c'est bon. On abordait hors antenne, ouais, le fait qu'on n'ait pas chanté en français.
Ouais.
Sans doute parce que d'avoir été biberonné au Têtes Raides, ça a mis la barre tellement haut. Que
niveau texte,
que du coup c'était compliqué de faire de jouer armes égales ou de dépasser. Du coup non, on a toujours écrit en anglais et que ça nous plaisait, ça nous a toujours plu comme ça. Et après, des groupes dans notre style qui chantent en français, il y en a évidemment. Et justement moi j'en suis très très heureux, enfin, d'entendre du Liminanaz avec des textes comme ça sonner ainsi, c'est top. Mais après, voilà, on a décidé de garder cette veine là et ça nous va bien.
Ouais, puis ça va très bien, moi, je trouve, avec le contexte musical, quoi. Enfin, l'anglais sonne bien avec le. Je sais pas ce que t'en penses, toi, si l'anglais c'est une langue plus facile à faire sonner quand on fait du rock psychédélique.
Bah, même si les étiquettes, c'est un instrument à part entière, en fait. Et c'est marrant, il y a eu des retours comme ça où après le concert au Point Éphémère où des gens qui connaissaient pas du tout le groupe, qui sont venus vraiment découvrir et qui disaient au merch, c'est top parce que vos voix sonnent vraiment comme des instruments. C'est vraiment la manière dont l'ingé son utilise vos voix, c'est vraiment des instruments, en fait. Voilà. Et donc au niveau des textes, l'album là, c'était donc Powerhouse. Powerhouse, c'est plutôt un truc autour des sectes, quoi. Et puis Live the Lord qu'on va aborder, c'est Live the Lord, quoi.
Ouais, puis la question au début, tu disais le thème des textes dans l'album.
Ouais,
aussi,
le thème des textes, puisque l'actualité aussi elle inspire vachement votre écriture.
Écoute, c'est très religieux, en fait, c'est très très spirituel comme album. Donc on est venu à l'appeler comme ça, ça a coulé de source, en fait. C'est un bout de parole qui est dans Cold Crusader. Et on est aussi beaucoup beaucoup inspiré par la musique religieuse, en fait. On aime beaucoup énormément le gospel et beaucoup le qawwali, qui sont des chants religieux musulmans. Soufisme, donc
pakistanais,
avec notamment Nusrat Fateh Ali Khan, on va dire la référence dans ce style de musique, et qui sont vraiment des formats pour nous, au final, et pour beaucoup de gens, très psychés, en fait, parce que c'est des morceaux qui durent 20 minutes.
Il y a le phénomène de trance aussi derrière.
C'était un sujet qui nous touchait, qui collait en fait carrément avec ce style de musique, quoi. Une espèce de trance, de longs morceaux,
une recherche de spiritualité, voilà. Aussi peut-être plus généralement.
Ouais, bah, c'est ça.
Généralement, oui, parce que Salvation Prayer, c'est un album qui aborde surtout le fait que la croyance touche un peu tout le monde, parce que même si on a beau être le plus cartésien possible, il y a toujours une petite croyance sur quelque chose, sur une superstition, c'est un album, enfin, on aime bien aborder ça du sens que il y a toujours une pensée vers autre chose, vers l'ailleurs, soit par lâcheté totalement, par poésie, soit par envie ou par besoin, c'est un truc qui touche tout le monde, en fait, au final, et même si on est complètement athée, ce qui est notre cas.
Enfin, on croit tous en quelque chose.
Voilà, au final, il y a toujours quelque chose auquel on croit, ouais.
Ok, bon, on va pas. L'émission touche à sa fin déjà. Il va être temps pour moi de vous remercier. J'avais une dernière question qui peut paraître surprenante. Vous êtes un jeune groupe, hein. Ça, sans aucun doute, moins de 30 ans.
Bah oui.
Vous avez déjà un beau CV, une belle expérience. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à un groupe qui commence à faire du rock'n'roll? Enfin, du rock au sens plus général, avec un grand R.
Pas attendre d'être signé par qui que ce soit, de sortir les doigts.
Surtout, les doigts.
Ouais, c'est ça, c'est le plus important.
On parlait de croyance, c'en est une, celle-ci.
Oh oui, bien sûr.
Mais c'est, ouais, non, c'est clair, c'est que aujourd'hui, il y a tellement de musique partout, de groupes qui sortent de partout, des choses incroyables sur le net, de vidéos de mecs qui font des millions de vues alors qu'ils ont, ils ont une deux casseroles dans la rue à Broadway. Si en fait tu vois pas le truc, si tu prends pas un peu de risque et tu vois pas un peu le truc comme une, il y a l'artistique, mais il y a aussi toutes les structures qui vont autour et il faut aller les chercher et il faut pas attendre en fait. Il y a tellement de gens qui sont motivés en plus et au final des gens qui font de la musique comme nous, on est très heureux de le faire, mais il y en a qui le font peut-être mieux que nous et qui seront jamais connus. Et l'important n'est pas que l'artistique, mais tout ce qui va autour. Et il faut vraiment se bouger pour l'avoir parce que beaucoup le veulent. Et
c'est des démarches voilà. qui sont tellement différentes en plus que ça doit être difficile à concilier.
Ouais.
Enfin, le purement artistique. Exactement. Et puis le fait de. Enfin, vulgairement, il faut se vendre, quoi. C'est quand même, on fait de la musique pour être écouté.
C'est pas toujours facile,
c'est
mais.
C'est pas toujours facile, non.
Mais c'est vrai qu'en plus, dans ce style de musique, on en croise pas mal des mecs, tu vois, notamment. Enfin, bref, on va pas citer, mais. On a deux, trois génies qu'on adore qui en sont déjà leur 10e album, et puis voilà.
Crabe dans leur coin, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et c'est vraiment important de. D'arriver à concilier les deux, la recherche artistique et le taf
qui va autour.
Qui va autour et il y en a.
Et puis il y a des gens qui font de la merde et qui se vendent très bien.
Voilà, c'est vrai.
Mais quand tu choisis de toute façon un style un peu à l'écart, on va dire,
Oui, c'est des marchés de niche. Quoi, donc
c'est des marchés de niche, mais il faut. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'arriver à braver un peu les frontières de niche et à essayer d'aller chercher aussi ailleurs et ce qui est chouette, c'est qu'on, au final, sur les retours qu'on a pendant les concerts, c'est qu'on est assez on nous dit bah ouais, c'est shoegaze, c'est il y a du garage, il y a du psyché, il y a de la violence, mais il y a un côté universel aussi, très pop, très mélodieux, des harmonies, voilà, qu'on aime beaucoup. Enfin, voilà, on aime mixer un peu tout ça, quoi.
Ça s'adresse au-delà du public du rock psyché, voilà. Moi, je trouve. Hein, pour écouter l'album pas mal de fois. Bah, il va être temps de se quitter, les garçons. Je vais d'abord vous dire un grand merci à tous les deux, donc Elliot et Martin, d'avoir accepté l'invitation de l'émission Tour de Piste. Je vous souhaite bonne route. Bah, j'espère que le disque va trouver son public. C'est déjà le cas, d'ailleurs. Vous retrouverez vendredi soir à 18h le privé à Babylone. On parlera, donc à 18h, on parlera des coups de cœur 2018, You Said Strange pourrait en être un, c'est le cas pour moi en tout cas. Le 2 juillet, vous avez rendez-vous avec Point d'Orgue à 18h avec Olivier. On parlera de Blues Touareg. Nous, on se quitte. L'occasion pour moi de vous remercier de votre fidélité pour cette année. On se retrouve en septembre et de votre écoute. On termine avec Leave the Lord des You Said Strange. Merci Martin, merci Elliot. À bientôt.
Merci.
Salut.
Salut. Ciao. Merci.
Oui. Leave the Lord.